Bonsoir à tous, il est 20h en temps universel, 22h à Paris. C'est l'heure du journal en français facile.
Anne Contner.
À la une de l'actualité, aujourd'hui la victoire du oui au référendum en Russie. Les résultats ne sont pas encore définitifs, mais la réforme de la Constitution est largement approuvée avec 73% des votes. L'Allemagne à la tête de l'Union européenne pour 6 mois. Au début de cette présidence, Angela Merkel a prévenu qu'il existait un risque réel de no deal avec le Royaume-Uni, c'est-à-dire de Brexit sans accord commercial entre le Royaume-Uni et les Européens. Et puis Donald Trump en perte de vitesse dans les sondages. Les personnes âgées en particulier lui reprochent sa mauvaise gestion de la crise du Covid-19.
Le journal
en français facile.
Ce n'est pas une surprise, le oui est en tête en Russie après le référendum sur la Constitution. Selon des résultats provisoires, 74% même des électeurs ont approuvé la réforme. Elle porte sur des points de société, sur la famille et l'éducation. Et surtout, elle permet à Vladimir Poutine de rester au pouvoir 12 années supplémentaires. À Moscou, on retrouve notre correspondant Daniel Valo.
Un oui massif et une participation au-dessus des 50%, ces résultats correspondent à ce qui était attendu par les autorités, tant ce scrutin organisé malgré le coronavirus. L'enjeu principal de ce vote était la possibilité pour Vladimir Poutine d'effectuer 2 nouveaux mandats et de rester au pouvoir, s'il le souhaite, jusqu'en 2036. C'est très important évidemment, mais il en a été assez peu question durant la campagne. Les partisans du oui préférant insister sur les valeurs conservatrices, traditionnelles, qui seront inscrites désormais dans la Constitution. Du côté des opposants à la réforme, c'est évidemment la consternation. Consternation palpable ce mercredi soir sur la place Pouchkine à Moscou, où s'étaient donné rendez-vous plusieurs centaines de personnes. « Ce vote est illégal », disait l'une des manifestantes qui espère une mobilisation massive dans la rue dès la rentrée prochaine. « Difficile », disait cette habitante de la capitale russe, de se rassembler à l'heure actuelle en raison du coronavirus et de l'interdiction des rassemblements toujours en vigueur malgré la levée du confinement. Daniel Valo, Moscou, RFI.
La tension monte encore entre la France et la Turquie. Paris reproche aux Turcs leur implication dans la guerre en Libye. La France accuse la Turquie de l'avoir empêchée de faire respecter l'embargo sur les armes, c'est-à-dire l'interdiction de livrer des armes à la Libye. La France se retire d'une opération de contrôle de cet embargo mené par l'OTAN en mer Méditerranée et elle demande aux Européens de réfléchir à des sanctions contre la Turquie. À propos de ce conflit en Libye, l'ancien émissaire des Nations Unies, Hassan Salamé, dénonce aujourd'hui l'hypocrisie de certains membres du Conseil de sécurité. Il dit avoir manqué de soutien de la part des pays qui appuient le maréchal Haftar face au gouvernement de Tripoli. L'Allemagne prend la présidence de l'Union européenne à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de cette année. Angela Merkel va devoir gérer des dossiers délicats. Avant tout, l'urgence économique et la crise provoquée par le coronavirus. Mais d'autres dossiers attendent la dirigeante allemande, comme le budget européen et l'accord commercial avec le Royaume-Uni après le Brexit. La chancelière allemande en a parlé aujourd'hui devant le Parlement à Berlin. Pascal Thibault.
Berlin, depuis le référendum en faveur du Brexit il y a 4 ans, fait preuve de compréhension pour la position britannique. L'Allemagne, comme le Royaume-Uni, partage des points de vue proches sur les dossiers économiques avec des positions plutôt libérales. Les deux pays sont marqués par un attachement important à la relation transatlantique. Et enfin, le Royaume-Uni est un marché important pour un pays exportateur comme l'Allemagne. C'est d'ailleurs ce dernier aspect qui fait penser à des Britanniques partisans du Brexit que l'Allemagne reste leur meilleur allié pour arriver à un accord. Mais dès le premier jour de sa présidence de l'Union européenne, Angela Merkel n'a pas caché sa retenue et estimé que les 27 doivent se préparer à un éventuel no deal.
Les progrès dans les négociations sont plus que modestes. Nous avons convenu avec Londres d'accélérer ce processus pour parvenir à un accord cet automne. Je continuerai à m'engager pour une solution positive, mais nous devrions être prêts si un accord n'était pas trouvé.
Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont débuté lundi 5 semaines d'intenses négociations pour tenter de trouver un accord sur leurs futures relations commerciales. Faute de compromis, d'ici le 31 décembre, les seules règles de l'Organisation mondiale du commerce, avec des droits de douane élevés et des contrôles stricts aux frontières, s'appliqueront. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Plusieurs milliers de personnes ont bravé l'interdiction de manifester aujourd'hui à Hong Kong. C'était l'anniversaire du jour où ce territoire a été rendu à la Chine. Les manifestants voulaient aussi protester contre la nouvelle loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin. Elle prévoit un contrôle plus strict de la part de la Chine et des peines plus lourdes pour ceux qui enfreindraient la loi. Près de 200 personnes ont été interpellées aujourd'hui en vertu justement de cette nouvelle loi controversée.
Le journal en français facile.
L'Organisation mondiale de la santé répète qu'il faut faire très attention au coronavirus. La pandémie accélère encore. Depuis une semaine, on compte 160 000 nouveaux cas chaque jour dans le monde. C'est la pire semaine depuis l'apparition de la maladie. Le pays le plus touché reste les États-Unis. Et à cause du coronavirus, le candidat démocrate Joe Biden annonce qu'il n'organisera aucun meeting avant l'élection présidentielle de novembre. Il est en tête des sondages nationaux alors que le président Donald Trump, lui, est moins populaire, surtout chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Analyse de Lauric Henneton, maître de conférence à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines en France. Selon lui, on peut expliquer cette baisse de popularité par le refus de Donald Trump de généraliser le vote par correspondance.
Trump est persuadé que le vote par correspondance n'a pas véritablement d'intérêt sanitaire. L'opinion de Trump et son obstination passent mal. Et le fait que ça mette en danger la santé des gens qui voudraient que le vote par correspondance ou la possibilité de voter par correspondance soit généralisée, ces gens-là se disent « le président prend notre santé à la légère et c'est donc un mauvais président qui ne s'occupe pas du bien-être de son peuple ». On a remarqué, on s'interroge un petit peu sur le recul de Trump chez les évangéliques. Les évangéliques, statistiquement, sont plutôt des personnes âgées. Donc, en fait, c'est pas chez les évangéliques qui perd du terrain, c'est vraiment chez les personnes âgées, notamment par sa gestion un petit peu légère, on va dire, du Covid. C'est des questions de survie, en fait. Ils ont l'impression que ils s'occupent pas d'eux. C'est une question qu'on pose régulièrement dans les sondages. Est-ce que le président s'intéresse à des gens comme moi? Et là, on voit qu'il y a, un creux. Les questions de santé sont loin devant dans les préoccupations des électeurs.
Lauric Henneton, maître de conférence à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines, en France. Aux États-Unis, toujours, puisqu'on parlait de la présidentielle, le maire de la ville de Richmond annonce que certains monuments vont être retirés. Richmond était la capitale des États confédérés pendant la guerre civile, c'est-à-dire des États qui défendaient l'esclavage. Et le maire dit donc que les monuments en mémoire des personnalités de cette époque vont être enlevés. C'était une demande de nombreux manifestants depuis la mort de George Floyd, cet homme noir tué par un policier blanc lors de son arrestation. Après les États-Unis, c'est à Cuba qu'on manifestait contre les violences policières. Un rassemblement était organisé hier pour dénoncer la mort d'un jeune homme lors de son interpellation. Cette manifestation a été interdite et des opposants comme des journalistes ont été bloqués chez eux. Il y a eu aussi plusieurs arrestations. Romain Lemaresquier.
Au total, ce sont plus d'une trentaine d'activistes, selon la presse d'opposition, qui ont été arrêtés ce mardi ou placés en résidence surveillée par la police nationale révolutionnaire cubaine. Des opérations qui ont été menées principalement à La Havane, mais pas seulement, car des appels à manifester pour dénoncer les violences policières avaient été relayés un peu partout dans le pays. Des appels qui ne sont pas fréquents à Cuba, où les autorités mettent tout en œuvre pour empêcher des manifestations non autorisées. Parmi les premières personnes à avoir été arrêtées se trouve l'opposant José Daniel Ferrer, l'un des plus notoires, qui a finalement été relâché quelques heures plus tard. D'autres opposants ainsi que des artistes et des journalistes indépendants ont également été arrêtés ou empêchés de sortir de chez eux. Tous voulaient dénoncer la mort le 24 juin dernier d'Ansel Hernandez, tué d'une balle par un policier dans le quartier de Guanabacoa, dans la périphérie de La Havane. Un meurtre selon la tante du jeune homme, ce que démentent les autorités qui assurent dans un communiqué que la victime, surprise en flagrant délit de vol, avait été poursuivie par des policiers sur qui elle jetait des pierres.
Romain Lemaresquier, et puis l'un des principaux sites touristiques du monde a rouvert aujourd'hui. Les pyramides de Gizeh en Égypte accueillent de nouveau des visiteurs. Elles étaient fermées depuis plus de 3 mois à cause de l'épidémie du coronavirus. Mais les touristes n'étaient pas très nombreux aujourd'hui, ils étaient seulement quelques dizaines. Merci d'écouter RFI. Vous retrouvez ce journal en français facile sur la page RFI Savoir sur Internet.